Je vous invite ce matin à donner vos vies au Seigneur. Je vous invite ce matin à tout lui donner. Tout. Tout. À vous présenter devant Dieu. Et dire, non seulement tu m'as racheté, Seigneur, mais je prends la décision aujourd'hui de tout te donner. Tout ce que je suis. Corps, âme et esprit. Au plus profond de mon être, je veux t'appartenir. Je fais le choix de tout te céder. Je vous invite à reconnaître que Jésus est digne de recevoir la louange de ses rachetés. Mais la louange qui vient de vies qui lui sont entièrement acquises. Je vous invite aujourd'hui à vous donner à Jésus. Je ne vous dis pas donner vos vies comme nous disons faire la prière du salut. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le maintenant. Mais donnez tout votre être à Jésus ce matin. Tout, votre avenir, votre présent, vos projets, vos désirs, vos ambitions. Reconnaître que c'est lui qui vous a fait. Et que les projets de Dieu sont les meilleurs. Et que les pensées de Dieu sont les meilleures. Et que les plans de Dieu sont les meilleurs. Bien, nous te disons merci.
Merci, Seigneur.
Merci pour ta parole.
Merci pour ta parole.
Merci de nous avoir donné ton esprit.
Merci
pour le désir que tu as de communiquer avec nous.
Merci pour le désir que tu as de communiquer avec nous.
Nous sommes toutes oui, Seigneur.
Nous sommes toutes oui, Seigneur.
Nous te demandons, Père,
nous te demandons, Père,
d'inspirer ce message,
de parler à nos cœurs,
d'amener le changement,
la transformation,
de nous rendre conformes à Jésus.
Corps, âme et esprit.
Saint-Esprit,
nous
t'invitons.
Agis en nous aujourd'hui.
Fais en sorte
que l'illumination vienne.
Que la compréhension vienne.
Que la révélation vienne.
Que les choses que nous avons tellement entendues enfin prennent vie aujourd'hui.
Dans nos vies.
Au nom de Jésus.
Amen.
Alléluia. Je vous demande de faire un grand sourire à la personne à côté de vous, de vous asseoir dans la grâce de Jésus et de tourner dans Colossiens 1, du verset 9 au verset 11. Et ceux qui sont rapides auront le temps de tourner ici dans Éphésiens chapitre 4, du verset 1 au verset 3.
I wanna sing of the goodness of the Lord.
C'est la chaîne. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes convaincus de certaines vérités concernant Dieu. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'un jour nous avions des problèmes et quelqu'un qui était chrétien nous a aidés. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes convaincus de certaines vérités concernant Dieu. Parce que sinon, un bouddhiste aurait pu vous aider et vous seriez aujourd'hui bouddhiste. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'un jour, nous n'avons pas pu dormir et nous avons prié Jésus. Et nous avons réussi à dormir. Comme je dis toujours, Jésus n'est pas en somnifère. Vous aurez pu crier au mystique et pouvoir dormir tout d'un coup. Et vous seriez aujourd'hui un mystique appartenant à une religion orientale, une religion traditionnelle africaine. Vous auriez pu offrir un sacrifice à Obatala. Et aujourd'hui, vous seriez abonné au vaudou. Nous ne sommes pas chrétiens uniquement parce qu'un jour, il est arrivé quelque chose et quelqu'un a fait quelque chose. Waouh, tout a changé. Dieu nous touche de par ses actions. Mais nous sommes chrétiens parce que nous sommes convaincus d'une vérité. C'est la raison pour laquelle je dis, quel que soit ce qui a attiré votre attention à Jésus, il est important que vous connaissiez la vérité au sujet de Jésus. Et que vous soyez convaincus de cette vérité. Si vous n'êtes pas convaincus de cette vérité, vous allez constamment demander à Dieu de faire la surenchère. Il faudra qu'il multiplie encore d'autres actes. Il faudra qu'il prouve autre chose. Chaque jour, il faudra qu'il prouve quelque chose. Chaque semaine, il faudra qu'il prouve quelque chose. Et si vous avez quelques difficultés passagères, vous allez renégocier votre accord avec Dieu parce qu'il ne s'est pas prouvé. Nous sommes chrétiens parce que nous avons cru à quelque chose. Il y a un corpus de vérité. Ce que nous avons appelé dans cette série les fondamentaux. que nous croyons au sujet de Dieu, au sujet de Dieu créateur, au sujet de Jésus rédempteur, au sujet du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, au sujet du péché, de la chute, de tout ce que Dieu a fait pour rapprocher l'homme avec lui, la réconciliation, le pardon, la justification. Ce sont des réalités. Et nous sommes chrétiens parce que nous avons cru que ces choses sont vraies. Alléluia. Et en croyant en Jésus, la parole de Dieu nous dit que nous passons de la mort à la vie. Il y a aussi une transaction spirituelle qui se produit. Ce n'est pas simplement que nous changeons d'activité le dimanche matin. Au lieu maintenant d'aller jouer au golf, nous commençons à venir à l'église. De toute façon, ça ne dure que deux heures et demie. Qu'est-ce que ça peut nous coûter? Et on ne sait jamais, ça peut se révéler utile. Nous sommes chrétiens. Nous changeons nos habitudes parce que ce que nous croyons a changé. Je voudrais que cela soit clair dans nos cœurs et que cela soit clair dans cette église. Cette église, nous sommes fondés sur la pierre de l'angle qui est Jésus. Et la connaissance de la personne de Christ, l'amour pour la personne de Christ, la consécration envers la personne de Christ est la réalité de la vie du chrétien. Et quand nous avons cru ces fondamentaux, nous avons vu que cela se traduit par des valeurs. Il y a des valeurs qui sont la conséquence naturelle et logique de la vérité que nous avons épousée. Nous avons vu plusieurs de ces valeurs, la réalité du fait que tout est issu de Dieu. Donc tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, notre manière de vivre doit trouver son origine en Dieu. Des valeurs comme l'amour, des valeurs comme la souffrance, non pas que nous soyons maso et que nous cherchions à souffrir, mais le fait que nous sommes à contre-courant, nous croyons en Dieu dans un monde qui ne croit pas en Dieu, implique que les gens ne vont pas trouver ça très agréable. Que les gens ne vont pas trouver cela très agréable. Et peut entraîner des persécutions, des souffrances, et ça fait partie du lot du chrétien, c'est parfaitement normal. Non seulement c'est normal, la parole de Dieu nous dit de nous en réjouir. Glory to God. De nous en réjouir. Alléluia. Des valeurs comme la séparation. Ceux qui étaient à la prière m'ont entendu en parler hier, n'ont pas entendu parler longuement de la sainteté, parce que la sainteté est la conséquence de la séparation. Si nous ne nous séparons pas du monde, nous n'allons jamais vivre une vie sainte. Et toutes ces choses et d'autres valeurs encore, comme la foi, qui est essentielle et qui est sous-tend toutes ces autres valeurs, toutes ces valeurs doivent conduire à un mode de vie. Dites mode de vie. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas réellement à avancer dans leur vie chrétienne, c'est qu'ils n'ont pas décidé de changer leur mode de vie. Ces valeurs vont conduire à un certain mode de vie. Par exemple, le fait que je considère que Dieu est la source de tout, Dieu est tout, ce que je crois au sujet de Dieu va m'amener à désirer le contact avec Dieu, va m'amener à désirer connaître Dieu, ce qui va m'amener à lire sa parole parce que je veux le connaître. Vu que j'ai compris, une valeur fondamentale aussi, c'est l'inspiration divine de la Bible. Donc j'ai compris que si je veux le connaître, je ne peux le connaître qu'à travers sa parole. Cela va me conduire naturellement à adopter un mode de vie qui consiste à lire sa parole. Mais en réalité, nos valeurs ne conduisent pas toujours de façon automatique à un changement de mode de vie. Et c'est là où le bât blesse, parce que beaucoup de gens pensent que Dieu devrait faire quelque chose pour que je le connaisse mieux. Dieu devrait faire quelque chose pour que je sache prier. Dieu a déjà fait le quelque chose en question. Il nous a donné un mode de vie. Il nous a donné un modus operandi dans sa parole, n'est-ce pas? Donc, c'est à nous de décider. Le changement de mode de vie va... Et non seulement le résultat des valeurs que nous avons épousées, le changement de mode de vie va aussi renforcer ces valeurs. Si vous êtes déjà dans Colossiens 1, je vais lire avec vous. La parole de Dieu nous dit ceci. L'apôtre Paul vient de parler de l'amour de cette église de Colosse. Et il dit au verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Et c'est intéressant, j'aime beaucoup regarder les prières de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que ce grand homme de Dieu a prié? Parce que nous savons ce que nous prions. Mais de temps en temps, il faut comparer nos prières à celles de la Bible. Qu'est-ce qu'il a demandé, cet homme, pour ces gens qu'il aimait tellement? Il a dit de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Et quel est le but de cette connaissance de la volonté de Dieu, de cette sagesse, cette intelligence spirituelle. Quel est le but? Le but, c'est ceci. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc, il leur dit, il y a un objectif ici. La connaissance que vous allez acquérir de Dieu doit vous conduire à marcher d'une manière digne du Seigneur. Est-ce que ça veut dire à mettre deux pas devant, deux pas et à marcher? Non. Cela veut dire à vivre d'une manière digne du Seigneur. Dans Éphésiens, la même idée revient dans cette lettre écrite à l'église d'Éphèse et à l'église de Paris 15e. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit qu'il est le prisonnier dans le Seigneur parce qu'il écrit ses lettres de sa prison. Alléluia. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation qui vous a été adressée, c'est votre appel en tant que chrétien. Vous avez été appelé, vous êtes sorti des ténèbres, vous êtes entré dans sa lumière. Donc, il vous invite à vivre une vie qui est digne de cet appel de Dieu. En d'autres termes, nous sommes censés vivre de telle sorte à honorer Dieu. Les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons, notre manière de fonctionner, notre manière de parler, notre manière de penser, ce dans lequel nous sommes impliqués, tout ce que nous faisons, toute notre existence devrait honorer Jésus. Alléluia. Et devrait démontrer la réalité de la vérité que nous avons crue. Et même les gens qui ne sont pas chrétiens le savent. Parce que ça ne vous étonne pas que des fois, ils vous disent, mais il n'est pas censé être chrétien, lui. Lorsqu'ils voient un chrétien faire certaines choses, parce qu'ils savent que ce que nous croyons devrait nous conduire à un certain comportement. Ils le savent. Il n'y a que les chrétiens qui ne le savent pas. Qui vont dire, Dieu fait grâce. L'abus majestueux de la grâce. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 11, il nous dit ceci. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Nous n'avons pas épousé ces vérités pour pouvoir discourir. Nous n'avons pas épousé ces vérités pour pouvoir nous assommer mutuellement avec des versets bibliques pour montrer qui est le plus spirituel. Nous avons épousé ces vérités, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et maintenant, notre manière de vivre doit démontrer que ces choses sont ainsi, que nous croyons réellement ces choses et que ce Dieu que nous servons est une réalité. Et c'est en vivant de cette manière-là que les gens qui ne le connaissent pas sont attirés par nos vies et sont attirés par notre Dieu. Si votre Dieu n'est pas suffisamment important à vos yeux pour que vous respectiez ses principes, pourquoi voulez-vous que vos amis désirent le connaître? Ils peuvent se moquer quand vous décidez de respecter ses principes, mais ils vont respecter ce Dieu qui est capable de vous amener à changer à ce point. Je vous ai parlé de la personne qui m'avait évangélisé avant que je ne vienne à Christ. Et Dieu sait que j'étais assez casse-pieds. Je lui avais beaucoup cassé les pieds dans ces discussions qu'on a eues ensemble. Et des années après, moi, je m'étais convertie, j'étais à fond. Elle était plutôt rétrograde par les bords. Et quand elle m'a appelé, que je commençais à lui parler du Seigneur, elle était requinquée. Elle a décidé qu'elle allait s'y remettre de plus belle parce que si moi je pouvais parler comme ça, elle se souvenait des dernières conversations qu'on a eues. Et elle était motivée par cette, elle était de nouveau encouragée pour suivre ce Dieu si extraordinaire qui a pu me changer à ce point. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que j'ai beaucoup de foi pour les gens qui sont soi-disant difficiles. Si vous n'avez pas encore vu difficile. Et la vie que nous vivons invite les gens ou à désirer connaître notre Dieu ou à désirer ne rien avoir à faire avec notre Dieu. Mais la question qui se pose est celle-ci. Comment marcher d'une manière digne du Seigneur? Et beaucoup de chrétiens le veulent. Ils veulent, ah oui, moi je veux vraiment que ma vie t'honore, Seigneur. Je veux vraiment que ma vie te bénisse, etc., etc. Mais il y a des choix que nous devons faire. Il y a la partie, nous avons fait des prières de consécration ce matin, c'était merveilleux, ce n'était pas prévu. Donc, que je dois raccourcir mon message parce que Dieu a décidé de faire autre chose, mais c'est lui qui est le chef. Alléluia. Et c'est merveilleux. Et si vous ne vous êtes pas senti concerné, vous êtes probablement concerné. J'ai écouté un serviteur de Dieu qui est pasteur, et il est pasteur dans la même église que sa mère, et sa mère avait prêché ce jour-là. Lui, il a trouvé que c'était merveilleux le message sur le pardon, il s'est pas du tout senti concerné. Pasteur d'une grande église. Il est rentré chez lui, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, il a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et le Saint-Esprit lui a montré que lui avait besoin de pardonner. Moi? Et bien sûr, il s'est soumis, il a pardonné et Dieu l'a restauré. Parfois, nous ne nous sentons pas concernés, mais nous sommes éminemment concernés. Et c'est le Saint-Esprit qui nous montre ce qui est en nous, que nous ne voyons même pas. Et nous avons fait ces prières de consécration, mais il y a ensuite un style de vie à adopter. Si beaucoup de gens n'arrivent pas à poursuivre dans leur marche chrétienne, c'est qu'ils n'ont pas adopté un style de vie qui leur permet de poursuivre. Quand vous êtes étudiant et que vous avez beaucoup de travail, vous partez, vous sortez tous les soirs? Non, ça c'est la recette de l'échec. Or, beaucoup de gens vivent un style de vie qui est une recette parfaite pour l'échec dans la vie chrétienne. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment Jésus a vécu. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée. Comment est-ce que Jésus a vécu? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de sa vie sur les réflexes à avoir chaque jour? Et c'est chaque jour en réalité. Chaque jour. C'est comme lorsque nous faisons le cours assis, nous disons aux gens de faire leurs études tous les jours, ou le cours de disciple, de faire tous les jours. Et il y a des gens qui font à la fin de la semaine. Le résultat, c'est que vous accumulez beaucoup de connaissances, vous mettez vos connaissances sur le papier, et dès que c'est fini, les connaissances disparaissent. Nous l'avons fait quand nous étions à l'école. Quand nous étions à l'école, nous ne faisions rien. Jusqu'à l'heure de l'examen, jusqu'à quelques jours avant, une semaine, deux semaines avant. Et on se mettait à étudier toute la nuit, on buvait du café pour pouvoir rester éveillé. Et on étudiait à fond. Et on avait plein d'informations dans la tête. Et on allait à l'examen, on faisait nos examens, et on réussissait. Et peu de temps après, on avait tout oublié. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas intégré à l'intérieur de nous. On a amassé une quantité d'informations rapidement et l'information a disparu tout aussi rapidement. Donc, ce que nous comprenons, c'est que pour vivre vraiment nos vies chrétiennes, il y a des habitudes, dites habitudes. Il y a des habitudes à acquérir chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Il y a des habitudes à acquérir chaque jour. Et ce sont ces habitudes qui nous permettent réellement d'être totalement transformés par la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de faire une boulimie le week-end, il s'agit de manger de façon régulière chaque jour. Glory to God. Et ce que nous constatons quand nous regardons la vie de Jésus, c'est déjà sa vie avant qu'il ne commence son ministère. Est-ce que vous avez déjà été interpellé par le fait qu'il y a un événement qui nous est raconté concernant l'enfance de Jésus, à part le départ en Égypte, et c'est quand il était encore bébé, mais son enfance, en tant qu'enfant, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Rien. Dans les évangiles, je veux dire. Rien. La seule chose que nous savons sur lui, la seule chose qui nous est dite dans les évangiles, regardez avec moi dans Luc chapitre 2, ça commence à vous donner une idée de la manière dont nous sommes censés vivre et ce qui est important aux yeux de Dieu et ce qui nous bâtit, ce qui nous construit. Dans Luc chapitre 2, au verset 46, il nous dit ceci. Au bout de 3 jours, pour vous situer le contexte, Jésus avait 12 ans. Il est parti avec ses parents pour la Pâque à Jérusalem. Normalement, les Juifs devaient partir, les hommes devaient partir 3 fois par an, mais avec les distances, les gens ont commencé à y aller une fois seulement par an. Donc, ses parents sont partis avec lui. Et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, la fête était finie, ils sont rentrés chez eux. Mais en rentrant chez eux, ils ont découvert que Jésus n'était pas avec eux. Vous imaginez la panique? Un garçon de 12 ans, de surcroît annoncé par un ange, il ne faut pas le perdre. Mais où est-il? Où est-il? Alors, il commence à le chercher, il retourne à Jérusalem, il le cherche partout. Mais partout. Ils le cherchent partout, ils ne le voient pas. Ils finissent par aller au temple. Le troisième jour, 3 jours, vous imaginez dans quel état ils étaient, pendant 3 jours à le chercher. Alors, ils arrivent, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. En train de jouer avec les autres enfants? Non. Assis au milieu des docteurs. Les docteurs sont les enseignants de la loi, pas les médecins. Hein? Les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient, imaginez la scène, un garçon de 12 ans, avec tous ces grands enseignants de la loi, tous ces gens qui passent leur vie à étudier la parole de Dieu. Eux, ce ne sont pas comme nos pasteurs. Nos pasteurs, ils font le ménage, ils font le nettoyage, ils font la sono, ils font la louange, ils font tout. Eux, ils consacrent tout leur temps à étudier la parole de Dieu. Et ça, c'est des spécialistes de la parole. Et au milieu de tous ces gens, un garçon de 12 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? » Ben, peut-être parce qu'on n'a pas vu. Peut-être parce qu'on est parti sans toi et on était venu avant avec toi. Peut-être que ça fait 3 jours quand même. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Quelles sont les affaires de son père dont il s'occupait? La parole de Dieu. Et manifestement, il devait déjà avoir exhibé cet amour pour la parole de Dieu, sinon il n'aurait pas été surpris du fait qu'il le cherchait. Pour lui, c'était évident, il devait savoir où il était. Il devait savoir qu'il était dans le temple, qu'il serait en train de discuter de la parole de Dieu. Ben pourquoi me cherchez-vous? Et certains pensent que, oh, mais il a été dur avec eux. Non, c'est qu'il devait le savoir. À cause de sa manière d'être, de sa manière de vivre. Et quand il parle des affaires de son père ici, de quoi parle-t-il? Il parle de la parole de Dieu. Et dans toute la vie de Jésus, et c'est la seule chose que nous savons de son enfance. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard? L'importance de la parole de Dieu, la méditation, l'étude, la lecture constante, régulière, quotidienne de la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, après, il les a suivis. Et la parole de Dieu lui dit qu'il aurait été soumis. Ça, c'est encore toute une autre prédication. Dieu qui se soumet aux hommes. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de vous soumettre, vous? Eh, mais parce que moi, je sais des choses et Jésus ne savait rien. Oui, mais parce que moi, je me disais et Jésus n'en avait pas. Mais c'est une autre prédication. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, nous avons vu ce passage avec lequel nous avons commencé cette série, a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Et quand le diable est venu le tenter, et encore une fois, il ne lui a pas répondu en lui expliquant la sagesse humaine, il lui a répondu avec la parole de Dieu. Et je vous ai expliqué que ce qui est extraordinaire dans ce que Jésus a fait, c'est que l'appel qui lui a été fait était lié à son besoin naturel. C'est naturel de vouloir manger. Au bout de quelques jours, on a le droit de vouloir manger. Et quand on a la capacité d'obtenir de la nourriture, on se croit en droit d'utiliser les moyens à notre disposition pour obtenir ce que nous voulons. Or, Jésus a souligné quelque chose de très important. Il a souligné que l'obéissance envers Dieu, l'obéissance envers la parole de Dieu est infiniment plus importante que de satisfaire à ses besoins. Je vais le répéter pour que ça pénètre. Parce qu'en tant que chrétien, nous avons toujours l'impression que Dieu doit satisfaire à nos besoins, même s'il faut violer sa parole. Ce qui est primordial pour Dieu, c'est sa parole, pas nos besoins. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tous les besoins légitimes trouvent leur réponse dans sa parole. Mais il y a des moments où même des besoins légitimes, nous devons choisir. Je ne vais pas passer par ce moyen, je vais obéir à la parole de Dieu. Jésus a répondu que l'homme ne devait pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc il a décidé qu'il n'allait pas utiliser des moyens non orthodoxes pour répondre à un besoin naturel. Ça, c'est la première chose que nous avons déjà vue. Et il y a quelque chose que j'ai partagé avec les gens qui étaient à la prière hier, et ça c'est très important. Et c'est là où nous voyons l'importance de la méditation constante de la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle pénètre à l'intérieur de nous et elle devienne partie intégrante de notre être. C'est que Jésus n'a pas répondu au diable en lui disant « Non, je ne vais pas faire ce que tu veux parce que Dieu m'a promis ceci. » Il n'a pas répondu avec une promesse de provision. Il a répondu en déclarant son allégeance envers Dieu. Il a répondu en déclarant son accord avec les voies et les moyens de Dieu. Même si ça devait lui coûter quelque chose. Même si ça veut dire que je ne vais pas manger, je ne vais pas faire les choses en dehors de la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on arrive à avoir ce genre d'attitude dans la vie? C'est ça, vivre la vérité que nous avons crue. C'est ça, marcher d'une manière digne du Seigneur. Mais comment est-ce qu'on y arrive? En lisant la parole de Dieu une fois par semaine? Non. On y arrive en méditant constamment, tous les jours, en mode de vie, jusqu'à ce que la parole de Dieu devienne la nôtre. Jusqu'à ce que la vision de Dieu devienne la nôtre. Jusqu'à ce que la pensée de Dieu devienne la nôtre. Nous ne sommes plus, comme j'ai dit la semaine dernière, dans notre équipe, en train d'essayer de dribbler avec Dieu. Seigneur, tu as dit, mais quand même. Mais Seigneur, tu comprends, tu sais que. Non, nous sommes de son côté. Sa parole est tellement imprégnée en nous que nous sommes convaincus que c'est comme ça. Dieu dit c'est comme ça, nous aussi on dit que c'est comme ça. Jésus dit, c'est ça, nous on dit, oui, c'est ça. Même si ça veut dire que nous devons souffrir. Même si ça veut dire que nous devons être privés de quelque chose. Mais ça ne vient pas avec une lecture occasionnelle de la parole de Dieu. Ça ne vient pas avec une lecture torturée de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par une lecture torturée? Il y a des chrétiens qui lisent la parole de Dieu tous les jours. C'est leur devoir. Et c'est la pilule amère qu'il faut avaler chaque jour pour payer la rédemption qui a été donnée gratuitement. Qu'est-ce qui se passe? On connaît les versets, mais on n'a pas le cœur de Dieu. On connaît les versets, mais on n'est pas vraiment d'accord avec Dieu. On connaît les versets, mais on n'a pas d'élan pour le point de vue de Dieu. Et Jésus a montré ici qu'il préfère être en accord avec Dieu que de satisfaire à ses besoins. Et non seulement il était l'incarnation de la parole. Mais toute sa vie était en obéissance à la parole. Et très souvent en tant que chrétien charismatique, évangélique, nous connaissons la parole de Dieu. Nous allons citer des versets, jeter-les à la figure du diable. Voilà la parole dit, il est écrit. Et dès que l'on sort de là, on désobéit à la parole. On dit, mais pourquoi je ne veux pas de puissance? La désobéissance envers la parole est le reflet du fait que nous ne sommes pas d'accord avec Dieu. Nous lisons ces préceptes comme une imposition. Mais quand nous en faisons un style de vie quotidien, non pas dans la torture de l'âme, mais dans la foi, c'est à nous de décider. C'est à moi de dire, je vais m'inculquer les valeurs du royaume de Dieu. C'est une décision rationnelle. Ce n'est pas quelque chose d'émotionnel. Je sens la présence. Où est ma Bible? Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Ah, c'est une parole pour la sœur qui fait la louange. Parce que la manière dont elle saute. Non. Une décision rationnelle. Une décision rationnelle pour dire, je vais m'inculquer les valeurs du royaume de Dieu. Quand je vois ce que Dieu dit dans sa parole et je vois que ma position est différente, je dis, ok Seigneur, je constate que je ne suis pas en accord avec toi. Je ne vais pas te demander de changer. Tu n'as pas l'intention de changer, mais je veux changer. Je veux commencer à penser comme toi. Je ne vais pas te demander de faire grâce pour que je puisse faire des bêtises et que tu me bénisses quand même. Je veux le meilleur. Et le meilleur, c'est la pensée de Dieu. Le meilleur, ce sont les valeurs de Dieu. Je les veux. Je dois t'admettre qu'en ce moment, j'en suis loin. Je vois ce qui doit être les valeurs du royaume de Dieu. Je vois ce qui doit être les pensées du royaume de Dieu. Mais voilà où je suis, moi. Et maintenant, je veux changer. Je veux que ma manière de penser change. Je veux ressembler à Jésus. Je veux qu'il est écrit sorte de mes entrailles et pas uniquement de ma tête. Je veux être en accord avec toi. Je veux partager ton point de vue. Et je ne veux pas être de ceux avec qui tu dois batailler pendant toute leur existence sur la terre parce qu'ils ne sont jamais d'accord avec toi. Parce que j'ai confiance en toi. Parce que j'ai cru que c'est toi qui m'as amené à l'existence. Et en m'amenant à l'existence, il y a des choses précises qui étaient sur ton cœur. Et je ne vais franchement pas passer à côté. Je ne vis qu'une seule fois. Je ne crois pas à la réincarnation, moi. Il y a des chrétiens qui vivent comme s'ils croyaient à la réincarnation. Comme s'ils auront l'occasion de revenir et revivre tout ça. On ne reviendra pas pour revivre tout ça. Donc le mode de vie doit changer. Je suis conscient du fait que je ne peux pas lire occasionnellement la parole ou lire la parole de manière torturée et penser que ma manière de penser va changer. Et moi, je veux qu'elle change. Je veux qu'elle change. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux qu'elle change. Quand je regarde Jésus, je suis admirative. Il était tellement libre vis-à-vis de ses contemporains. Tellement libre de leur opinion, libre de tous leurs jugements. Ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Vous pensez ça? Ben, moi, je dis que. Vous pensez ça? Moi, je dis que. Vous avez entendu dire que? Mais moi, je dis que. Chaque jour, qu'il pleuve, qu'il neige dans la parole. Chaque jour, qu'il pleuve, qu'il neige dans la parole. Chaque jour que je me réveille en souriant, que je me réveille maugréant dans la parole de Dieu. Et quand je viens, que je n'ai pas envie de me lire et que je sommeille, je dis, réveille-toi. Dis, Seigneur, tu vois, la chair veut prendre le dessus, il n'en est pas question. Toi et moi, tu vas m'inculquer tes valeurs. M'inculquer tes valeurs. Tu vas m'inculquer tes valeurs. Toute la vie de Jésus, nous avons vu à quel point il était l'incarnation de la parole. À fond dedans. Et le nombre de fois dans sa vie où pour expliquer quelque chose qu'il fait, il explique pour que les Écritures soient accomplies. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui auraient été écrites à votre égard. Il y a des choses que Dieu a définies vous concernant. Est-ce que vous voulez que la volonté de Dieu soit accomplie? Ah, il faut être imprégné de la parole de Dieu. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Et que tout ce que Dieu a défini vous concernant puisse venir à l'existence. Pourquoi nous voulons constamment prendre le mauvais chemin et ensuite revenir? Oh Seigneur, je suis revenu. Oh, j'étais loin en Asie, mais moi je suis de retour à Paris. Pourquoi ne pas rester à Paris? Hein? C'est possible. C'est possible ou pas? C'est une question de mode de vie. On change son mode de vie. En réalité, la parole de Dieu parle d'intelligence spirituelle, de sagesse spirituelle. Il s'agit de la connaissance des choses de l'esprit. Il s'agit aussi de l'intelligence quant au fonctionnement des choses de l'esprit. Comme je vous ai expliqué hier, pour ceux qui étaient à la prière, my mama didn't raise a fool. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, allez apprendre l'anglais. Littéralement, ça veut dire ma mère n'a pas élevé une imbécile. En d'autres termes, ah non, comment est-ce qu'on a trouvé en français? Je ne suis pas bête. On dit en français, je ne suis pas bête. C'est très court. En anglais, on dit my mama didn't raise a fool. Donc, vous ne voyez pas devant vous un imbécile. N'étant pas un imbécile, je comprends que c'est dans mon intérêt de me remplir de la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours. Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours. Tous les jours.
Tous les jours.
Et de cesser d'argumenter avec Dieu. Oui, mais Seigneur, moi, je pense que ça, c'est le propre des enfants et des bébés, des gens immatures. Oui, mais pourquoi je peux pas? Oui, mais si je suis chrétien, oui, mais ça changerait. Oui, mais je peux quand même. Non, fais comme tu veux. Just feel free to be stupid. Qui empêchera quelqu'un d'être stupide? C'est Dieu qui a la patience extraordinaire pour ça. Ne comptez pas sur Dieu et n'a pas cette patience. God is so good. Jésus a passé son temps à partager la parole, à vivre selon la parole. Et les gens ont essayé plusieurs fois de le trouver, de sortir des arguments théologiques. Ils sont venus poser des questions à Jésus. Qui est mon voisin? Quel est le plus grand commandement? Qui est mon voisin? Ils ont posé des questions pour essayer de le piéger. Et à chaque fois, ils étaient obligés de reconnaître qu'il était trop fort. Glory to God. Glory to God. C'est étonnant à quel point les chrétiens sont facilement piégés. Et quand on est piégé, vous allez penser que oui, c'est quand on va aller parler aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous savez, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ne sont pas le plus grand danger. Parce qu'en plus, de nos jours, dans notre génération, dans le monde occidental, les gens n'ont plus une culture biblique. Ce qui fait qu'ils vont vous poser des questions, c'est des choses tellement simples qu'ils ne connaissent pas. Vous n'avez même pas besoin d'être un grand docteur pour répondre. Des choses tellement simples que les gens ne connaissent plus. Dans le temps, quand on faisait l'évangélisation, au tout début, je disais, bon, va lire dans Jean, va lire dans Matthieu. Et j'ai vu comme que les gens ne savent vraiment pas du tout ce que c'est Matthieu. Matthieu, c'est où? C'est quoi? Non, mais c'est un des quatre évangiles. Ah bon? Un des quatre évangélistes? Ah bon? C'est où? C'est l'ancien ou c'est le nouveau? Waouh! Elle me dit, waouh! That's awesome. Après, ils disent, bon, je commence à la première page. Vous leur dites, lis le Nouveau Testament. Bon, j'ai une Bible, je commence à la première page. Non, c'est pas la première page, le Nouveau Testament. Ah, c'est la jeunesse. Ah bon, quelle est la différence? Donc, quand on dit qu'il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir ne pas se faire piéger, c'est moins par les gens qui ne connaissent pas le Seigneur que même par des débordements et des dérives au sein de l'Église. Toutes sortes de théologies. Parce que vous savez, nous avons chanté Jésus ce matin. C'est quoi l'Évangile? C'est Jésus. L'excellence de Christ, la beauté du Fils de Dieu, la merveille de l'incarnation, que Dieu se soit fait chair. Ce sont des choses qui peuvent nous occuper toute notre existence, à nous asseoir et méditer dessus, réfléchir, laisser le Saint-Esprit nous amener encore plus aux révélations, encore plus de révélations. Et on devient de plus en plus amoureux de Jésus. Et l'on devient fou, oh, fou de ce Dieu-là. Ce bon Dieu d'amour, oh Jesus. Alléluia. Et c'est ça, grandir dans la connaissance de Dieu, devenir amoureux de Dieu, devenir complètement fou de Dieu. Jésus, Jésus. Et vous entendez le Jésus et c'est Jésus, c'est le plus beau nom. Oh, merveilleux sauveur. Et souvent pour nous, ce sont des mots. Il n'y a pas d'élan dans le cœur parce qu'il n'y a pas de révélation. Et quand il n'y a pas de révélation de Jésus, on s'ennuie, on va chercher toutes sortes de doctrines étrangères. Toutes sortes de choses. Et les gens vont vous dire, vous connaissez les trois cheveux? Trois chevaux, les miens? Non. Parce qu'ils s'ennuient. Et les gens se font facilement piéger. Vous connaissez quelqu'un qui marchait avec Dieu, tout d'un coup est parti dans un truc totalement bizarre. Parce que oui, mais nous, on est dans la profondeur. Dans la profondeur de la parole. Ça, c'est des choses élémentaires. Mais élémentaires, Jésus est le commencement, la fin, le milieu, il est tout. Il est l'alpha et l'oméga. La personne du Christ. Parce que nous manquons de révélation. Les gens se font facilement fourvoyer. Et tous ces gens sont venus avec des questions à Jésus et ils n'ont pas réussi à le piéger. Quand vous vivez dans la parole de Dieu tous les jours, dans la contemplation du Fils de Dieu, vous n'allez pas vous faire piéger. Si vous savez toutes les doctrines que j'ai pu entendre dans mes 20 et quelques années de vie chrétienne, je bénis l'Éternel que je sois là. Alléluia. Il y a toujours des vagues. On s'ennuie un peu, c'est la routine. Au lieu de se plonger encore dans la méditation de la parole de Dieu, dans la profondeur de Dieu, dans la présence de Dieu, dit Seigneur, encore une pluie sur nous, on est en train de s'encrouter. On va dire, bon, on va chercher quelque chose pour émerveiller le monde. Jésus était indemne. Il n'a pas pu être touché par tout ça à cause de son identification totale avec la parole de Dieu. Méditation quotidienne. Et je disais que c'est le résultat des valeurs que nous avons, mais c'est aussi quelque chose qui renforce nos valeurs. Plus nous méditons sur la parole de Dieu, plus la réalité de Dieu est grande à l'intérieur de nous. Plus nous méditons sur la parole de Dieu, plus nous sommes convaincus de la voix de Dieu. Quand nous méditons sur la parole de Dieu, nous décidons que nous allons vivre comme Jésus le dit. Et cette valeur extraordinaire de l'amour devient une réalité pour nous dans un monde qui n'en connaît pas. Tout le reste qui nous vient nous amène dans le sens contraire de ce que Jésus nous dit. N'est-ce pas? Et cette absence de méditation de la parole de Dieu dans le désir de connaître Dieu, d'être proche de lui, de suivre Jésus, est évidente dans l'Église de par l'absence d'amour. Les querelles, les divisions, les histoires sur des bêtises. Dans le temps, les anciens avaient des querelles légionnaires sur des choses sérieuses, comme la divinité du Christ. Sur des choses sérieuses, comme la Trinité. Sur des choses sérieuses, comme l'incarnation. Jésus n'est pas, il y avait toutes sortes de doctrines bizarres dans l'Église primitive. Il y avait des querelles, des vraies, pour des choses sérieuses. Aujourd'hui, on a une querelle parce que, pourquoi moi je ne peux pas chanter? Parce que tu ne sais pas chanter. Et des querelles sur des choses ridicules. Ridicule, totalement ridicule. La parole de Dieu travaille en nous la volonté de Dieu. Et Dieu devient infiniment plus merveilleux à force de lire sa parole. À force d'étudier, nous arrivons à comprendre des choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre? Si vous ne savez pas qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, c'est parce que vous n'avez pas fait un effort sérieux pour étudier la parole de Dieu. Et on les comprend à force d'étudier. Et de prier, de demander la révélation. De telle sorte que vous devenez incollable. Jésus était incollable. Parce qu'il y a quand même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont fait un effort et qui ont lu davantage de la Bible que les chrétiens. Et je vous ai expliqué comment je faisais quand je n'étais pas encore convertie. Je lisais la Bible pour trouver des choses, des arguments contre les chrétiens qui venaient me témoigner l'Évangile. Et souvent, j'arrivais à les confondre. Et c'est pour cela que quand je me suis convertie, j'ai décidé d'étudier la parole de Dieu. Si je ne vais pas être comme eux. Glory to God. La méditation quotidienne amène en nous une révélation de la parole de Dieu et établit en nous la réalité de ce que nous avons cru. Et renforce nos convictions. Renforce nos convictions. Ce que vous contemplez régulièrement, c'est ce qui va vous remplir. Et vous en serez persuadé. La méditation quotidienne de la parole de Dieu nous permet réellement de voir les choses différemment. C'est toute la question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Est-ce que nous allons voir comme notre génération voit? Est-ce que nous allons accepter les valeurs de notre génération? Ou est-ce que nous allons accepter les valeurs de Dieu? Et beaucoup d'entre nous disent, oui, mais nous, le Seigneur dit ceci, mais ce n'est même pas en nous. Ce n'est pas réel, parce que nous ne méditons pas assez sa parole pour que son point de vue devienne réellement le nôtre. Nous disons ce qu'on fait en anglais, we pay lip service, c'est du bout des lèvres, parce que nous sommes évangéliques, nous sommes censés croire que. Nous sommes censés penser que, nous sommes censés avoir cette position sur cette question de société. Donc nous disons, c'est ce que nous pensons, nous. Et on s'esquive vite avant que quelqu'un, quiconque nous pousse dans nos retranchements, parce que là, on ne pourra plus rien dire. Jésus était incollable. Pas parce qu'il avait mémorisé beaucoup de versets, mais parce que la parole de Dieu était devenue sa réalité. La vision de Dieu était sa vision. J'ai vu un pasteur célèbre, dont je tairai le nom, sur l'émission de Oprah, il lui a posé une question. Et il a répondu en disant, oui, je n'ai pas à avoir une opinion là-dessus, la Bible dit que. Et je dis, mais quand même, tu dois avoir une opinion là-dessus. L'opinion de la Bible, oui. Mais ce n'est pas du genre, moi, je ne suis pour rien, c'est la Bible qui dit que. Ce n'est pas que je suis, ce n'est pas que je suis hostile à ces gens-là. Ce n'est pas que je suis méchant. Ce n'est pas, en d'autres termes, c'est pas moi. C'est la Bible. Nous sommes censés prendre fait et cause pour la parole de Dieu. La Bible dit, c'est que nous le disons aussi. Oui, mais est-ce que, oui, je crois que, oui, mais pourquoi, selon la parole de Dieu, et j'en suis convaincu, et c'est la vérité. Ce n'est pas, oui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Jésus nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 14, 22, 23. Et il y a une situation ici, Jésus était avec des foules et il les a renvoyés. La parole de Dieu nous dit au verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a renvoyé tout ce monde? Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Dites prier à l'écart. Quand on regarde le style de Jésus, le style de vie de Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il était imprégné de la parole de Dieu et il priait. Il priait constamment. Il priait à l'écart, donc seul. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Seul, seul, seul. Il y a des gens qui ne prient qu'à l'église. Qui ne prient que lorsque le frère en tel appelle. Qui ne prient que lorsqu'on a une prière à la maison. Mais pas seul. Dites seul.
Seul.
Marc 1, 35 nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, comme à 5 heures du matin. Ah, mais il fait sombre, je ne peux pas me lever pour prier. Comme il faisait encore très sombre. Est-ce qu'il y a des imitateurs du Christ ici? Thank you, Lord. Quand il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Seul. Et très tôt le matin. Luc 5, verset 15, nous dit ceci, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Luc 9, 28 nous dit que Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques avec lui et ils sont allés ensemble sur une montagne pour prier. Ils priaient à l'écart, ils priaient seuls, ils priaient en groupe. Pour ceux qui disent, oui, mais moi je prie chez moi, je n'ai pas besoin d'aller à la réunion de prière de l'église. Même Jésus priait en groupe. Oui, mais j'ai un ami fidèle, il vient souvent à la maison et on prie. Jésus priait en groupe avec les siens. Son église à lui. Parce que nous, on n'est pas à la réunion de prière de l'église parce que quand on rassemble en tel chez nous, c'est nous qui commandons. C'est nous qui dirigeons, donc on préfère ça. L'humilité. Luc 6, 12 nous dit qu'il a passé la nuit en prière. La nuit entière. Ça fait quelques heures, n'est-ce pas? Pour ceux qui pensent qu'il y a une bénédiction spéciale sur le fait de prier 5 minutes le matin, Jésus a passé la nuit en prière. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre ici? Que Jésus avait un style de vie de prière également. Régulière. La prière régulière. La prière seule. La prière en groupe. Et la prière longue. Longue. Vous devez apprendre à prier longtemps. Oui. Oui, parce que tout ne se règle pas en 5 minutes. Et tout ne se règle pas en 15 minutes. Et je vais même vous dire que tout ne se règle pas en 30 minutes. Tout ne se règle même pas en une heure. Il y a des choses de votre vie où vous allez avoir besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Vous savez, les puritains disaient, priez jusqu'à ce que vous priez. Pray until you pray. Parce que souvent, quand on prie, on vient, on veut prier. Vous savez ce que c'est quand vous priez à la maison, n'est-ce pas? Non, mais personne ne va mentir. Tout le monde va dire, on est d'accord. Vous savez ce que c'est quand vous priez à la maison? Les 10 premières minutes, c'est pour vous réveiller. Les 15 minutes suivantes, c'est pour vous installer. Ensuite, les 30 minutes suivantes, c'est pour chasser toutes les pensées de votre tête. Et parfois, une heure et demie, on commence vraiment à prier. Il y a un esprit de prière qui vient sur nos vies. lorsque nous sommes vraiment dans la présence de Dieu. Vous commencez à prier et des fois vous priez, vous. Ce n'est pas une question de sentiment, de ressenti, quoi que ce soit. C'est tout simplement qu'il y a des fois, vous n'avez pas percé spirituellement. Vous n'avez pas percé. Et si vous priez 15 minutes et vous partez, vous n'avez pas percé. Et on prend le temps jusqu'à ce qu'on entre vraiment dedans. Et cet esprit de prière vient sur vous. Et vous êtes poussé, et vous y allez. Tout votre être est dedans. Toutes les pensées sont parties. Toutes les imaginations sont parties. Et vous êtes face à face avec Dieu. Vous êtes face à face avec Dieu. Et là, vous faites affaire avec Dieu. Là, vous priez. Et c'est là où vous priez. Le reste, c'était juste là-bas. Seigneur, je suis là. Ah, c'est lui. Oh, ouais, je suis là. Ah, je suis là. Hein. Je ne suis pas passé. Non, vous n'avez pas encore prié. Et pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas forts dans la prière? Parce qu'ils se limitent à leur petite prière de 5-15 minutes. Parce que certains serviteurs de Dieu, pour ne pas les offusquer, pour qu'ils pensent, oh, mais c'est trop légaliste, c'est trop dur. Ils disent, non, faites une petite minute la journée, Dieu voit que vous faites un effort. Non, ça ne suffit pas. Vous voulez vivre dans la victoire? Ça ne suffit pas. Apprenez à prendre du temps dans la présence de Dieu. Si Jésus avait besoin de prier toute la nuit, et vous alors? Apprenez à prendre du temps. Apprenez à mettre le temps à part. Et quand les gens me disent, mais pasteur, je n'ai pas de temps pour prier. Je dis, waouh, comment peut-on être si peu intelligent? Mais tout le reste n'a aucune valeur si tu n'as pas percé dans la prière. On tourne en rond, les chrétiens tournent en rond. Année après année, on tourne en rond. Et l'année commence, et cette année, oh Dieu, j'ai passé. C'est l'année de la victoire, yes! C'est l'année de la percée, yes! Le lendemain, à 7h, on est encore au lit. 7h30, 8h, on est encore au lit. On est allé travailler à 9h, 8h30, vite, on se lève, on s'habille, 5 minutes. Seigneur, je t'aime, je te bénis, sois glorifié. Wow, alléluia. Pour se donner bonne conscience, on chante à l'intérieur dans le métro. Non, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Il y a une opposition réelle à votre vie, à l'œuvre de l'Église sur la terre. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui vont avoir une vie de prière tous les jours. Maintenant, je ne vous dis pas que chaque jour vous priez 3 heures. Si vous pouvez, faites surtout, ce ne sera pas de trop. Mais je vous invite à développer une vie de prière sérieuse. Organisez-vous, fermez la télévision. Sauf pour regarder Passion pour Dieu.
Alléluia.
Alléluia. Et commencez à prier. Je vous ai souvent partagé comment j'ai réellement commencé à prier. C'est encore un défi que je me suis mis. Dieu sait comment nous toucher chacun de nous. Et il aussi m'a mis au défi. Je me suis dit, mais je n'ai jamais été médiocre dans ma vie. Pourquoi je vais être une chrétienne médiocre? C'est bon, on va commencer à prier. Je mets tous les jours, le temps que j'allais passer avec Dieu. Si vous ne mettez pas en temps à part, vous n'allez jamais être régulier. Vous dites, bon, on va voir demain, et demain, vous, peut-être ce soir, et vous rentrez le soir, vous êtes fatigué. Oh, je suis un peu fatigué, ce sera demain. Non, mettez en temps à part. Tous les psychologues vous le diront. Vous voulez créer une habitude, vous devez définir quelque chose de précis. Je vais vous donner un exemple. Je me suis acheté une paire de chaussures de marche. Tous ceux qui sont venus chez moi ont vu mes chaussures de marche. Mes chaussures de marche trônent dans mon entrée. Ils ne font que ça. Mais il y a quelques semaines de cela, j'avais décidé. J'avais défini en temps où j'allais faire la marche. Et vous savez, le premier jour, il a fallu que je me le rappelle. Le deuxième jour, j'ai dû me le rappeler. La troisième fois, c'est venu automatiquement. C'était à la fin de mon temps de prière, à une heure précise, et tout automatiquement, c'est remonté en moi que c'est le temps d'aller marcher. Vous suivez? C'est remonté en moi que c'est le temps d'aller marcher. Et j'ai fait ça, et le désir grandissait. Alors que ceux qui me connaissent savent que l'exercice physique... Waouh! Glory to God, by faith. Alléluia. Et c'est devenu une joie, et ça remontait en moi, et on rappelle automatique. Une habitude, c'est quelque chose qui est devenu automatique dans nos vies. Et pour que cela devienne automatique, aidez-vous en fixant des temps précis. Ne laissez pas votre vie de prière au hasard. Après, vous allez rentrer, et après, Philippine va vous appeler, dire, oh, j'ai des problèmes. Ou plutôt, Philippine va vous dire, ah, ma chère, j'ai un truc croustillant à te raconter. T'es assise. Et vous êtes, ah, je dois prier, mais je vais écouter 5 minutes. Mais ouais, non, écoute, ma fille, installe-toi. Hey! on va causer. Et vous êtes là, Seigneur, pardon, je reviens. Et vous allez vous installer. Et Philippine va vous parler pendant 3 heures. Et quand ça sera fini, quand vous aurez passé en revue la vie de tout le monde à l'église, avec leurs défauts, leurs points forts, leurs points faibles, les sœurs qui ne savent pas chanter, les sœurs qui ont lesquelles, hey, tu l'as vu, toi, ah, ma sœur, moi, j'ai vu, tu ne me c'est tout ça ce que je sais. Et quand vous aurez fini, ce sera trop tard pour prier. Et surtout, vous ne vous sentirez pas envie de prier avec tout ce que vous venez de raconter. Et vous allez fuir Dieu, Seigneur, pardon, pardon, demain. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'avais cela remonté à l'intérieur de moi qu'il fallait que j'aille marcher. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à créer une habitude. Mais un jour, j'ai décidé que non. Non, je ne vais pas le faire, on va voir demain. Et à partir de ce jour-là, c'était fini. Et maintenant, quand je regarde mes chaussures demain, je dis, ah. Bon, un jour, on crée des habitudes. C'est un choix. C'est une décision logique et rationnelle de dire, je vais passer du temps dans la parole de Dieu. Je vais passer du temps dans la prière. Et je vais prier jusqu'à ce que je prie. Et quand vous priez jusqu'à ce que vous priez, vous allez savoir ce que c'est la vraie communion avec Dieu. Et vous allez devenir accro de la présence de Dieu. Tellement accro de la présence de Dieu qu'un jour, vous ne pouvez pas laisser passer un jour sans passer du temps avec Dieu. Pas un jour. Et c'est comme ça que Dieu travaille à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que Dieu fait pendant tout ce temps? Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient simplement pour qu'on puisse lui dire, ben, tu es merveilleux, tu es bon. Ou on vient simplement dire, tu es merveilleux, tu es bon, il ne se passe rien. Non. Rappelez-vous le verset qu'on a lu la semaine dernière. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une rémunération. Moi, je dis toujours, Seigneur, je veux que tu me rémunères bien. Et la rémunération majeure que je veux, c'est toi. Amen. Te connaître. La révélation de ta personne. Un amour extraordinaire pour toi. Je veux être payé. Et paye-moi en personne. Je veux que tu me rémunères et je veux que tu me rémunères avec toi. Je veux te connaître autant qu'il est possible à un être humain de te connaître. Je veux t'aimer autant qu'il est possible à un être humain de t'aimer. Et quand je viens dans ta présence, c'est ce que je te demande de faire en moi. Alors tu me rémunères, Seigneur. Hein? Je compte sur la rémunération, la révélation de Dieu. Ah, vous savez que Dieu ne se fait pas prier pour ça. Glory to God. Je vais finir avec une dernière chose parce que le temps passe. Je vais simplement vous dire ceci. Quand vous priez, Dieu agit à l'intérieur de vous. En réalité, Dieu est toujours en train de nous convertir. Dieu est toujours dans l'entreprise de persuasion. Quand vous passez du temps dans la présence de Dieu, il passe son temps à vous persuader. Il vous montre les choses qui sont de lui et il vous montre à quel point c'est merveilleux. Et vous regardez et vous commencez à lui dire, mais c'est merveilleux. Et vous commencez vous-même à réfuter tout ce que vous aviez pensé avant. Et a dit, mais Seigneur, c'est merveilleux, mais c'est ça que je veux, mais ça, c'est merveilleux, mais c'est ça. Et vous entrez dans un accord et une entente avec Dieu qui est absolument merveilleux. La vie en esprit est une vie merveilleuse. Il faut cesser de vivre en périphérie. Il faut prier jusqu'à ce que vous priez. Glory to God. Quand j'ai commencé à prier, j'avais décidé 1 heure par jour, Seigneur, c'était long. 1 heure, ça peut être long. 1 heure, parfois, ça fait 10 heures. En fonction de vos muscles spirituels. Mais j'avais pris la décision. Et je n'allais pas arrêter. Et j'ai mis mon réveil pour que quand c'était 1 heure, le réveil sonne. Et tant que le réveil ne sonnait pas, je n'arrêtais pas. Parce que j'avais compris une chose. Je ne veux pas attendre d'avoir envie de prier. Je vais m'inculquer l'amour de la prière. Je vais m'inculquer le désir de la présence de Dieu. Parce que je sais que le problème n'est pas Dieu, le problème c'est moi. C'est que j'ai été façonné différemment. Et je vais laisser Dieu me refaçonner. C'est une décision rationnelle et logique. Et c'est à vous de la prendre. Et quand j'ai commencé à prier, et au bout d'un moment, le réveil sonnait très vite. La perception du temps avait changé. Et j'ai commencé à voir jusqu'à combien de temps je pouvais prier. Donc quand j'avais une journée à la maison, le Dieu dit, tiens, qu'est-ce qui passe à la télé? Les feux de l'amour. Vous allez dire, oh, il y a longtemps que ça passe plus. Ça date. Je décidais juste de commencer à prier jusqu'au moment où j'allais arrêter. Je me souviens la première fois où j'ai prié 5 heures. J'étais tellement contente. J'étais tellement contente. J'ai regardé là, j'ai prié 5 heures. Oh, merci Seigneur. J'étais tellement contente. Et pourquoi j'étais contente? Parce que je ne m'en rendais pas compte. Parce que le temps passait tellement vite. Je ne m'en rendais même pas compte. Il y a tellement de choses que Dieu peut faire en nous et à travers nous si nous le laissons faire. Si nous décidons de changer notre mode de vie. Notre mode de vie. Et ça, c'est votre choix. Vivre d'une manière digne du Seigneur. La dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que comme mode de vie, nous devons décider de mettre en pratique ce que nous croyons. Mettre en pratique nos valeurs. Nous avons parlé de l'obéissance de Jésus, par exemple. L'obéissance est fondamentale. C'est A.W. Tozer qui a dit ceci. Si nous voulons la bénédiction de Dieu, nous devons commencer à obéir. La prière ne devient efficace que lorsque nous arrêtons de nous en servir comme substitut à l'obéissance. Nous nous trompons nous-mêmes lorsque nous essayons d'en faire le substitut. Nous allons prier, beaucoup de gens prient beaucoup, mais vivent dans la désobéissance la plus totale. On prie en langue très fort. Vous-même, vous êtes intimidés. Wow! Quand le frère prie, les montagnes tremblent. Il n'y a que les montagnes qui tremblent. Dieu ne bouge pas. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Nous devons mettre en pratique ces valeurs, l'obéissance, l'amour. Chaque jour, vous avez l'occasion de pratiquer l'amour. N'attendez pas que quelqu'un vous fasse quelque chose de vraiment grave pour dire maintenant je vais aimer, vous n'allez pas y arriver. Commencez déjà à pardonner à la personne qui est passée devant vous. J'ai dû apprendre le pardon quand j'ai commencé à conduire. Surtout quand je me fais insulter. Je suis quelqu'un de très digne. Je me respecte, je ne fais pas de bêtises en général. Alors, quand quelqu'un sur le chemin m'insulte, et vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes dans l'insulte, ils vous insultent, ça pénètre dans vos os. Ils vous insultent, vous savez, wow, vous êtes là? Excuse me? Was that me? Vous êtes là, oh my. Et vous aviez envie de... Non. Bless them, Jesus. Oh. Bless them, Jesus. Maintenant, je sais ce que c'était Dieu, la croix. Nous amplifions toujours tout ce qui nous concerne. Mais chaque jour, nous pratiquons l'amour. Chaque jour, nous pratiquons la séparation. Chaque jour, nous faisons le choix de ne pas regarder ce film-là. Ce n'est pas « non, je vais regarder demain, on verra ». Non, 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 aujourd'hui, ne regarde pas. Dites-en, aujourd'hui, ne regarde pas.
Aujourd'hui, ne regarde pas.
Aujourd'hui, ne regarde pas. Ah, ça te parle? Non, tu réagis tellement vivement que je me suis dit, ouh, il y a des choses que je dois savoir. Nous exerçons chaque jour. Dans nos services chaque jour. Dans nos sacrifices chaque jour. Alléluia. Chaque jour, saisir les occasions de souffrir pour Jésus. Les discussions au travail, vous décidez de ne pas vous mêler parce que vous savez qu'ils vont vous insulter. Mêlez-vous-en. C'est l'occasion de pratiquer la souffrance. Non pas pour irriter les gens, mais il y a des moments où l'un chrétien devrait naturellement dire quelque chose. Et nous, on choisit de ne rien dire parce qu'on ne veut pas de problème. Exercez-vous. Dites ce qu'il faut dire dans ces circonstances. Dites ce que le Saint-Esprit vous demande de dire, avec amour, bien entendu. Pas « vilain pécheur, tu vas en enfer. Dieu vient de me le dire. » Non. Et on souffre et on grandit dans la connaissance de Dieu. Mode de vie. Le mode de vie est très intéressant. Je vais vous inviter à aller lire le livre de Daniel, les 3-4 premiers chapitres du livre de Daniel. Et on va conclure sur cela. La parole de Dieu nous invite à vivre une vie digne du Seigneur. Le plus célèbre opéra de Verdi, ou du moins celui qui l'a rendu célèbre, c'est Nabucco. Et il y a un air... qui s'appelle le cœur des esclaves hébreux. Le cœur des esclaves hébreux est peut-être l'air le plus connu par la majorité des gens et il est extrêmement beau, extrêmement beau. Court, mais vraiment très beau. Et c'est l'histoire des esclaves hébreux à Babylone, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui avait écrit le texte, il m'avait demandé à Verdi de le mettre en musique et c'est vraiment c'est splendide. L'histoire des esclaves hébreux à Babylone et le Metropolitan Opera de New York a joué cet opéra. Et il y a un clip de cet air qui est sublime. Vous voyez ces esclaves, vous les voyez dans leur état de détresse. Ils sont là et ils sont en train de chanter. Ils sont en train de chanter. Et ils sont en train de penser à Sion, penser à ce qu'ils avaient laissé derrière, n'est-ce pas? Si vous regardez le psaume 137, je crois, vous allez aussi voir, dont une partie d'ailleurs a été reprise, c'est une autre référence musicale par Bonnie M. By the rivers of Babylon. Si vous chantez ça à l'église, pasteur, oui, parce que c'est tiré de la Bible. Where we sat down and there we were. When we remember Zion. Et il y a une partie où il dit, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. En nous souvenant de Sion. Pour ceux qui ont quelques défis en anglais, c'est ce que ce chant veut dire. And here we wept when we remember Zion. Au sud de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Et dans ce chant, il dit, how shall we sing the Lord's song in a strange land? C'est ça la question qui se pose à notre génération. Ça, c'est la question qui se pose à notre génération. Comment est-ce que nous allons chanter les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes étrangers sur la terre. Si vous pensiez que Dieu vous a mis ici pour que vous demeuriez et que vous viviez comme tout le monde, détrompez-vous. Nous sommes étrangers sur la terre. Et comment est-ce que nous allons chanter les chants du Seigneur? Comment est-ce que nous allons faire triompher les valeurs du Seigneur dans une génération incrédule? Comment est-ce que nous allons... Évidemment, nous ne sommes pas en captivité, Dieu merci, nous sommes dans la liberté la plus totale. Mais vous voyez, ce peuple était dans une terre étrangère, emmené en captivité à cause de la punition, bien sûr, de leur péché. Mais le parallèle que je tire ici, c'est qu'ils sont dans un endroit totalement païen. Ils sont dans une société totalement païenne. Et ils doivent continuer à honorer leur Dieu. Ils doivent continuer à retenir les valeurs de leur Dieu dans ce monde totalement païen. Et il y avait un homme dans ce monde, un homme qui s'appelait Daniel. Daniel, dans sa jeunesse, a été emmené en captivité par Nebuchadnezzar. Il a été emmené en captivité à Babylone. Et dans sa jeunesse, il a été choisi avec d'autres jeunes de toutes les différentes parties de l'Empire pour être formé, pour fonctionner, pour opérer dans la cour du roi, le roi païen, un roi sanguinaire. Et Daniel, avec ses trois amis, ont décidé qu'ils n'allaient pas se souiller avec les mets du roi. Parce qu'ils devaient être nourris, ils devaient être entraînés, ils devaient être formés. Et ils ont pris la décision de respecter les lois de leur Dieu. Et Dieu leur a accordé la faveur. Non seulement Dieu leur a accordé la faveur avec les personnes qui devaient s'occuper d'eux, Dieu a montré que le respect de ces lois était quelque chose de bon. Parce qu'eux étaient bien meilleurs et en meilleure forme que tous les autres jeunes qui ont pris les mets du roi. Est-ce que vous allez prendre les mets du roi? Ou est-ce que vous allez faire le choix que dans cette génération, vous allez respecter les valeurs du royaume de Dieu? On ne peut pas dire, oui, mais tout le monde fait ça. Daniel était dans un monde où tout le monde était païen. En plus, il a été éloigné de son peuple, il a été amené à la cour du roi. Et il a été en témoignage de droiture, de justice, de sainteté au milieu de tout cela. Si lui pouvait le faire, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? C'est une question de choix. C'est une question de décision. C'est une question de choix. C'est une décision qu'il a prise. Et Daniel était un homme intègre. La parole de Dieu nous dit qu'un esprit excellent était dans Daniel. Il connaissait la parole de Dieu. C'était un homme de prière. Nous avons vu aussi qu'il a encouru un grand danger dans sa vieillesse parce que lui a continué, en dépit du danger que cela représentait, il a continué à prier. Et parce qu'il priait en notre Dieu, il a été jeté où? Dans la fosse aux lions. Nous n'avons même pas eu à résister jusqu'à la mort. Il y a des endroits au monde où les gens résistent jusqu'à la mort. Nous n'avons pas ici, dans ce pays, à résister jusqu'à la mort. Mais Dieu cherche des gens dans notre génération qui vont décider, moi j'appartiens à Dieu, je veux vivre une vie qui est conforme aux valeurs du royaume de Dieu. Et Daniel était tellement intègre que Nebuchadnezzar était obligé de reconnaître le Dieu de Daniel. Est-ce que les gens qui vous entourent reconnaissent votre Dieu? De par l'intégrité de nos vies. Parce que les gens regardent ce que vous dites, ce que vous faites. Si nous décidons de faire comme eux, comment voulons-nous faire en sorte qu'ils viennent à la connaissance de Christ? Et comment est-ce que nous allons honorer Dieu? Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Daniel a décidé de ne pas se compromettre. Il a décidé de ne pas se souiller, il a décidé de ne pas se compromettre. Et Dieu l'a honoré. Il y a beaucoup de gens qui lisent le livre de Daniel pour se mystifier sur les prophéties. Je vous encourage à lire le livre de Daniel pour vous inspirer de cette personnalité. De cet homme qui, dans sa jeunesse, a su marcher dans l'intégrité. Le maître mot aujourd'hui pour le chrétien, c'est l'intégrité. Est-ce que nos vies vont refléter ce que nous disons croire? Et pour cela, nous avons besoin d'être imprégnés de la parole de Dieu. Convaincus. Nous ne sommes pas en guerre contre Dieu pour obtenir ce qu'il nous faut dans nos vies. Nous devons dire au Seigneur, Seigneur, si ça ne vient pas de toi, que ça ne vienne pas. Est-ce que vous me suivez? Si vous êtes capable de dire cela, rien ne vous fera trébucher. Parce que vous êtes résolument identifié à Christ. Et quand vous êtes tenté de dire non, 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 rappelez-vous qui vous a sauvé. Rappelez-vous qui vous a racheté. Rappelez-vous qui vous a délivré. Rappelez-vous qui vous a donné ce qu'il y a de meilleur. Le salut en Jésus. Alléluia. Ma prière, c'est que nous tous ensemble, nous puissions réellement être, vivre des vies qui sont dignes du Seigneur. Ok. Est-ce que vous voulez faire ces déclarations après moi? Père Céleste,
me voici.
Aujourd'hui, je décide de changer mon style de vie. Aujourd'hui, Père, je décide que je vais vivre de manière digne de l'Évangile et que je vais adopter un style de vie qui me conduit à manifester ces valeurs dans ma vie de tous les jours. Aujourd'hui,
je décide
que je vais méditer ta parole.
Je vais devenir un étudiant de ta parole.
Méditer chaque jour.
Étudier chaque jour
ta parole.
Pour en être totalement imprégné.
Je décide, Père,
que je vais prier
chaque jour.
Je vais te côtoyer
tous les jours.
Tu ne demanderas jamais
où es-tu?
Quand tu as demandé à Adam.
Mais je serai présent.
Je te donne rendez-vous. Chaque jour.
Seul.
Et je serai présent.
Je décide aujourd'hui.
Que je vais mettre en pratique.
Ces valeurs.
L'amour.
Je vais mettre en pratique.
Le sacrifice.
Le don de soi.
Toutes ces valeurs.
Je vais les exercer chaque jour.
Je décide aujourd'hui
que dans ma génération,
je vais chanter différemment.
Je vais chanter le chant de Dieu.
Je refuse
de
me laisser influencer par ce qui m'entoure. Je vais me laisser influencer
par la parole de Dieu.
Au nom de Jésus.
Amen.